Merci Cécile Mérieux.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
En présence de Jérôme Clément et de Gérard Gachet, deuxième sujet que nous avons choisi aujourd'hui après la Syrie. C'est bien sûr, il y en a quantité de sujets, mais on a choisi nos relations avec les États-Unis à la lumière de la déclaration d'Ursula von der Leyen. Bien sûr que les États-Unis sont des alliés de l'Union européenne, en dépit des récentes attaques verbales de Donald Trump. C'est ce qu'elle a dit hier, estimant que l'Europe devait désormais augmenter son effort de défense. On ne parle que de ça depuis plusieurs jours. La relation que nous avons avec les États-Unis, a-t-elle dit, est complètement différente de celle que nous avons avec la Chine, a souligné la dirigeante allemande réputée très atlantiste. Jérôme Clément, cet atlantisme, il doit s'affirmer aujourd'hui. Vous estimez que c'est un... Pourquoi ce rappel, en fait, de sa part ?
Parce que la question est posée. La question est posée de savoir si les Américains, comme vous l'avez dit, sont aussi des alliés, sont toujours des alliés ou pas. Il y a des alliés qui mettent des droits de douane à nos frontières, qui prennent une position diamétralement opposée aux Européens, à celle des Européens en Ukraine, des alliés qui ne font rien pour montrer qu'ils sont des amis. On peut se poser la question. Et c'est vrai qu'aussi, beaucoup plus grave, Trump dit qu'au fond, il ne sait pas très bien si l'article 5 de la charte de l'OTAN pourrait être mis en œuvre au profit des Européens. Effectivement, on se pose la question de savoir s'ils sont toujours des alliés. Évidemment, on a des relations qui ne sont pas du tout les mêmes qu'avec la Chine. On a un fond d'humanisme. Enfin, toute l'histoire des États-Unis est liée à celle de la France et de l'Europe, et de la Grande-Bretagne surtout, bien sûr. Donc... on a une histoire commune, mais aujourd'hui, elle est très mise à mal. Le régime, le gouvernement de Trump donne tous les jours la preuve qu'au fond, il se soucie assez peu de l'Europe. Il s'en fiche complètement. D'ailleurs, Trump l'a dit, ou son ministre, le sort de l'Ukraine ne l'intéresse pas du tout. Donc, ça nous pose des problèmes. Et ça nous pose des problèmes, évidemment, dans le domaine de la défense. Puisque si l'OTAN ne joue plus en notre faveur et si les Américains ne nous soutiennent plus, il faut bien qu'on se crée notre propre défense. Donc l'atlantisme pour moi, il est quasiment mort.
L'atlantisme est mort, Gérard Gachet ?
Je n'en suis pas totalement persuadé, parce que je pense que malgré la brutalité du président Trump, qui aime renverser la table, comme on dit souvent, je ne pense pas qu'il pourra effacer d'abord le fait que les États-Unis, quelque part, historiquement, sont un peu des enfants de l'Europe au départ, et puis il ne pourra pas effacer aussi bien Lafayette que le débarquement de Normandie, qu'un certain nombre de grands actes qui ont scellé cette amitié entre l'Europe et la France en particulier, et l'Amérique. Donc je ne suis pas sûr que ce soit mort, mais à travers l'attitude américaine, je me pose aussi la question du déclin de l'Europe et de la moindre importance qu'a vis-à-vis des Américains, mais pas seulement, qu'a aujourd'hui le continent européen et l'Union européenne telle qu'elle fonctionne. Je vais prendre un autre exemple totalement différent, parce que les hommes ne sont pas les mêmes et les caractères ne sont pas les mêmes, mais on a constaté, après l'élection du pape François, un manque d'intérêt de ce pape, et certains s'en sont un peu vexés, envers la vieille église catholique européenne qui lui semblait justement ne plus correspondre à ce que doit être pour lui, et c'est quand même un élément important, à ce que doit être pour lui l'église catholique d'aujourd'hui. Donc le déclin européen, il se traduit aussi par cette attitude arrogante, violente, et par moments insupportable de Donald Trump vis-à-vis du continent européen, mais nous avons aussi peut-être notre part, je dirais pas de responsabilité, mais nous avons à regarder un peu pourquoi nous sommes si maltraités par de plus en plus de gens autour du monde.
Finalement, Donald Trump sanctionne la réalité de ce qu'est devenu le vieux continent. C'est ce que vous dites, Gérard Gachet. Jérôme Clément, d'accord ?
Oui, je suis assez d'accord sur l'analyse, mais je pense que c'est une évolution inéluctable. Pendant plusieurs siècles, très nombreuses, l'Europe a été le continent dominant. Pour tout un tas de raisons, on n'a pas le temps de les rappeler, mais elles sont évidentes, aussi bien démographiques qu'économiques, que politiques. C'est le monde, le centre du monde était en Europe.
Alors que ces nations se faisaient la guerre.
Oui, se faisaient la guerre, mais pas toujours. Et finalement, se faire la guerre, ça crée aussi des liens. Donc, on le voit maintenant avec les Allemands, d'ailleurs. Mais ensuite est venue l'ère de l'Amérique, toute puissante. qui dominait le monde, avec l'aide avec les Européens comme alliés. Et puis on voit qu'aujourd'hui le monde est très multipolaire et que plus personne d'ailleurs ne dirige. Il y a eu la période où il y avait l'Est et l'Ouest, il y avait le régime communiste et les autres, les régimes libéraux d'un côté. Bon, tout ça est en train de voler en éclats. On voit que les démocraties ne sont plus vraiment des démocraties et que les valeurs occidentales européennes ne sont plus défendues, y compris par nos propres alliés, je pense aux Américains, qu'on ne sait plus très bien, chacun se définit d'une façon assez autonome. Et puis maintenant, on voit bien que l'irruption de la Chine crée aussi un pôle asiatique qui est beaucoup plus important. Donc on a une Europe qui a perdu beaucoup de ses capacités d'intervention militaire, qui pèse quand même de façon importante, puisqu'elle a 500 millions d'habitants sur l'ensemble de l'Union européenne, pour ajouter l'Angleterre, qui n'a plus la main sur le continent africain. Les Français se sont fait chasser quand même, qui peut intervenir plus ou moins selon les circonstances au Moyen-Orient, et qui, dans les grands conflits du monde, n'a plus la main. Et aussi l'ordre international mis en place en 1945 avec l'ONU, un conseil de sécurité dans lequel la France, la Grande-Bretagne a été membre permanent, ne joue plus aucun rôle. Donc effectivement, on a une perte d'influence considérable, et je ne crois pas que ça va aller en s'améliorant. Ça reste un endroit majeur sur le plan économique et politique et idéologique, mais ça ne reste plus le pôle autour duquel se définit le reste du monde.
Comment percevez-vous le fait qu'Emmanuel Macron veuille reprendre la main, ou prendre la main, ou prendre l'ascendant sur la défense européenne, la France étant bien placée? Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à ce que la France protège le continent européen de son arme nucléaire? On a eu des déclarations un peu inédites de la part de certains pays européens qui accepteraient cette perspective. Comment la regardez-vous, Gérard Gachet?
Lorsque le président Macron parle de renforcer la défense européenne, de quoi parlons-t-on dans cette affaire, comme disait autrefois Charles Pasqua? C'est-à-dire la défense de l'Europe. Mais de quelle Europe on parle? On a vu Madame Ursula von der Leyen mettre en avant un plan de réarmement de l'Europe. Ce n'est pas dans ses compétences, ce n'est pas dans celle effectivement de la Commission. Et son plan, puisqu'elle est patronne de l'Union européenne, ne prend pas en compte la Grande-Bretagne, qui est pourtant la deuxième puissance nucléaire, après la France, de l'Europe. Donc, qui s'occupe de quoi? C'est très bien de dire qu'il faut renforcer la défense européenne, mais alors pour ce qui est du partage de la dissuasion nucléaire, là aussi, qu'est-ce que recouvre cette formule? Est-ce qu'on étend le bouclier, c'est-à-dire les pays qui sont protégés par la dissuasion nucléaire française? Bon, c'est peut-être envisageable, mais ça demande déjà une restructuration complète des forces nucléaires stratégiques françaises. Et puis après, surtout, qui prend la décision? Et selon quels critères? Qui a la main sur le bouton, pour schématiser un peu, de façon un peu caricaturale, les choses? Mais voilà, qui prend la décision de, éventuellement, ne souhaitons pas qu'on en arrive là un jour, mais qui peut prendre la décision de faire jouer la force nucléaire française pour couvrir quels pays européens?
On peut imaginer, Gérard Gachet, Jérôme Clément, que la France couvre les pays européens qui le désirent en échange d'un commandement, d'accepter le commandement français et d'accepter d'acheter du matériel militaire français. Ça serait normalement, enfin, à mon avis, ça me paraîtrait être le marché un peu logique. Je ne sais pas si la France défendra cette position, Jérôme Clément.
Oui, enfin, je pense que sur la question d'acheter du matériel, d'abord, on n'a pas tout. On a des industries d'armement plus puissantes que d'autres, mais on ne couvre pas l'ensemble de la panoplie. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup achètent américains. On n'est pas les seuls en Europe. Il y a les Anglais, il y a d'autres pays qui ont des industries d'armement, les Suédois, etc., dans les avions, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on est loin d'être les seuls. Donc on ne veut pas demander aux pays qu'on va aider, on peut faire jouer des influences, leur dire ça serait mieux, et puis ils le feront. Je vois déjà d'ailleurs que les Polonais, qui achetaient entièrement américains, sont en train de changer leur fusil d'épaule, et c'est aujourd'hui le pays d'Europe qui se réarme le plus. Donc il est en train de changer sa stratégie.
À tel point qu'ils veulent recréer un service militaire, d'ailleurs.
Oui, ils sont à la porte. Ils ont déjà été divisés 50 fois dans l'histoire. Donc ils savent de dont il s'agit. Sur la question de la responsabilité politique, c'est un sujet très compliqué qui ne va pas se régler comme ça, parce qu'on ne va pas dire on vous donne le parapluie nucléaire, comme le disait Gérard Gachet, qui appuie sur le bouton, un problème qui n'est pas du tout réglé. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire de donner le parapluie nucléaire? Est-ce qu'on va déclencher la force nucléaire si les pays baltes sont un jour menacés? Vous voyez, c'est pas des questions simples. Donc on est au début d'un processus qui, sur le fond, a toute sa légitimité à partir du moment où les Américains disent ben, « nous, on en a assez ». Que vous viviez à nos crochets sur le plan de la défense et qu'on vous défende et que vous investissez rien. C'est pas vrai pour la France, mais c'est vrai pour l'Allemagne. Alors, il faut se reconvertir, il faut évidemment réorganiser tout ça. Ça va prendre des années, ça va pas se faire à chaud, et ça pose d'énormes problèmes entre nous. Mais on a quand même progressé d'une façon formidable sous la menace dans les derniers conseils ou réunions, pas seulement d'ailleurs...
C'est-à-dire ?
Eh bien, dans la réunion qui a eu lieu... à Bruxelles le jeudi dernier, et dans la réunion qui a eu lieu à Londres, qui n'était pas Union européenne uniquement, il y avait le Canada et les Anglais. Et donc là, on voit bien qu'il y a un groupe de pays, la Pologne, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, peut-être l'Italie, les Pays-Bas, les pays scandinaves, qui sont prêts à s'unir sur le plan militaire pour arriver à créer une défense européenne. On a beaucoup progressé. L'idée a beaucoup progressé, grâce à Trump. Ou à cause de Trump plutôt, mais on n'est pas au bout, mais on n'est pas non plus démunis, quoi. C'est un travail de longue haleine sur lequel on avance à grands pas. Et il y a une réunion des chefs d'état-major, je crois, demain à Paris. Ça continue, quoi. Heureusement,
Gérard Gachet, c'est une chance pour la défense française en soi, pour l'industrie de défense. Vous qui avez travaillé au ministère de la défense, hein, est-ce que c'est finalement une sorte de, je dis pas de revanche de l'histoire ou de retour de l'histoire qui nous place en première ligne?
Alors, chance pour l'industrie de défense, certainement, mais ça, à chaque fois que le climat est tel que l'on craint une guerre possible et que l'on désire avoir les moyens d'y faire face, c'est certain d'ailleurs, j'ai qu'à voir les scores en bourse des industries de défense françaises, c'est sans doute le cas dans les autres pays, pour voir que c'est, pour eux c'est une chance. Et je ne le dis pas de façon négative, hein, c'est normal que les marchés réagissent comme ça. Maintenant, est-ce que ce sera une chance pour la France? Encore une fois, il y a tellement d'inconnus sur la façon dont va s'organiser cette éventuelle défense européenne, qui aujourd'hui, il faut le dire, n'existe pas. Il y a des industries de défense dans un certain nombre de pays. Il y a parfois des coordinations qui existent entre industries de défense ou entre états-majors de différents pays, mais il n'y a pas une industrie de défense.
Mais il y a aussi des rivalités, y compris avec l'Allemagne, hein,
il y a bien sûr des rivalités.
Les munitions, par exemple.
Oui. Ce qui fait que, comme disait Jérôme Clément, on n'a pas tout en stock, les étagères ne sont pas toutes remplies, comme ils disent dans ces milieux-là. Et on est amené à acheter sur étagères dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Alors, à l'évolution de la Pologne qui est intéressante, que feront les pays européens qui, jusqu'à présent, choisissaient systématiquement, même lorsqu'il y avait une proposition française ou européenne pour tel ou tel matériel, il y avait des pays européens qui choisissaient systématiquement d'acheter américain. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ça sera intéressant d'observer leur attitude.
On voit que la Pologne change d'attitude. Hein.
Oui, la Pologne, effectivement, vous l'avez dit, commence à changer d'attitude.
Important.
Qu'est-ce que cela appelle comme réflexion sur la souveraineté? Parce que l'armement, l'armée sont liés à la souveraineté. On voit, en tout cas, ce sont vos réflexions qui nous amènent à le penser, que finalement, on ne sait pas trop comment la décision va se prendre. Qui peut prendre la décision? Comment ça se décide? Alors que les autres blocs semblent beaucoup plus autoritaires de ce point de vue, beaucoup plus pyramidaux. Et l'Europe, peut-être, donne le spectacle de sa désunion. Qu'en pensez-vous?
On est dans une situation complètement nouvelle. Donc, il faut inventer des nouvelles règles, c'est sûr. Puisque, jusqu'à maintenant, on raisonnait uniquement dans le cadre de l'OTAN. Si l'OTAN ne joue plus complètement son rôle, ou plus du tout, je ne sais pas, on va voir.
Il y a quand même 123 bases américaines en Allemagne. Hein.
Oui, bien sûr, donc c'est pour ça que tout ça n'est pas fini. Les Américains ne vont pas se retirer du jour au lendemain. On ne sait pas trop, parce que comme Trump fait souffler le chaud et le froid en permanence, on ne sait pas trop. Mais il faut inventer effectivement un système de défense européen. Ce n'est pas un problème nouveau. Je vous rappelle que le débat sur la CED, la Communauté Européenne de Défense, des années 54, posait déjà la question. Bon, vous voyez, en 54, on est en 2024, ça fait quand même très longtemps.
Et cela avait échoué.
Alors, c'était sans doute prématuré. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je pense que ça va évoluer dans un sens d'organisation, mais ça ne va pas être simple, évidemment.
Gérard Gachet, sur souveraineté, oui. Armée.
Voilà, vous posez la vraie question de fond, la souveraineté. Parce que jusqu'à présent, dans l'histoire, le fait de pouvoir lever une armée, c'était comme le fait de battre monnaie, c'était un privilège des États-nations. Bon, aujourd'hui...
Alors les empires pouvaient lever les armées aussi, hein. Le Saint-Empire germanique a levé des impériaux, etc.
Après avoir fait un certain nombre de conquêtes par la force.
Des mercenaires,
en général, voilà. Mais le fait de pouvoir lever une armée était un privilège, en gros, des États-nations. Donc, l'Europe n'est pas une nation. C'est son problème depuis déjà longtemps. Elle est constituée de vieilles nations millénaires qui ne vont pas s'effacer, disparaître comme ça, d'un coup de gomme. Donc, comment créer effectivement des processus de décision qui, tout en respectant les souverainetés nationales des pays qui composent l'Europe, leur permettraient de travailler ensemble, de s'armer ensemble et de se défendre ensemble, je pense que c'est un problème auquel il faut s'attaquer, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe est quand même seule sur le plan mondial, seule à pouvoir gérer ses propres intérêts.
Jérôme Clément, Gérard Gachet. On va parler à présent... Jérôme Clément, vous connaissez bien le sujet, la question chinoise, l'armée chinoise. Alors c'est beaucoup international ce matin, mais vous le comprenez, c'est aussi l'actualité qui dicte notre menu. L'armée chinoise qui a prévenu hier qu'elle resserrait le nœud coulant autour de Taïwan si le séparatisme s'y renforçait. Alors on ne sait pas trop ce qui a provoqué ce type de réaction. Et puis surtout cette condition, si le séparatisme s'y renforçait, ça a l'air de dire que peut-être on peut trouver un prétexte, une situation qui ferait accélérer un certain nombre d'initiatives, d'ambitions. En tout cas, la Chine enjoint les partisans de l'indépendance à s'écarter du précipice. C'est le terme qui a été employé. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine va donner lieu, il n'y a pas de lien entre les deux, mais il y a quand même un lien éventuellement de coïncidence temporelle si jamais il se passe quelque chose du côté de l'Extrême-Orient. Est-ce qu'on se prépare à un autre conflit entre la Chine et Taïwan? Est-ce que ce sera un conflit ou une opération militaire extrêmement rapide? Bref, beaucoup d'interrogations aussi. Jérôme Clément, comment voyez-vous cette information divulguée par l'armée chinoise?
Oui, il faut y distinguer, je crois, la conjoncture et la question de fond. La conjoncture, c'est que les Chinois envoient un signal aux Américains, compte tenu du fait qu'ils ont augmenté les droits de douane commerciaux, et en leur disant, attention, hein, parce qu'on est là, on n'hésitera pas à intervenir s'il le faut, et sur Taïwan, ne commencez pas à nous embêter. Donc je crois que c'est un avertissement en réaction aussi à la politique agressive, sur le plan économique en tout cas, des Chinois.
Des Américains.
Mais sur le fond, moi je ne crois pas du tout que les Chinois aient envie de faire une intervention militaire à Taïwan. Ils ne sont pas belliqueux par principe. Ce n'est pas leur nature, en plus. Leur nature, c'est de gagner les conflits sans mener de guerre. Sun Yat-sou, le fameux général qui avait écrit ses préceptes il y a déjà longtemps, l'avait indiqué. Les meilleures batailles sont celles qu'on gagne sans les faire. Oui. Et je crois que c'est leur état d'esprit. Moi, je crois beaucoup plus qu'ils vont chercher à récupérer Taïwan. Ça, c'est sûr. Pour le 100e anniversaire de la création de la Chine populaire, c'est-à-dire en 2049, ils l'ont dit, voilà. Mais je pense qu'ils chercheront à la conquérir par l'intérieur, c'est-à-dire en prenant le pouvoir et en peu à peu en obtenant par des pressions, par des infiltrations, par tout ce que vous voulez, à créer une situation de fait qui rattachera Taïwan à la Chine. Enfin, qui essaiera, je ne sais pas s'ils y parviendront. Mais une intervention militaire, je ne crois pas que ce soit dans leur dessein. Et là, pour l'instant, il s'agit des menaces pour dire aux Américains, bon, ça va, commencez pas et faites attention parce qu'on est là.
Pas de risque de conflit pour vous?
Ah non, je ne vois pas du tout de risque de conflit aujourd'hui. Non, ça me paraît absolument...
Pourtant, la zone est très militarisée, hein, c'est l'une des plus militarisées du monde.
Il peut toujours y avoir des incidents, il y en a déjà eu, mais ces incidents, on peut gérer... entre pays qui quand même se parlent. Il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a pas de voie de communication entre ces différents pays. Ça inquiète sûrement aussi beaucoup les Japonais, la Corée du Sud, enfin tous les pays de la zone. Mais je ne crois pas du tout qu'il y a le risque d'une intervention chinoise militaire actuellement. Pas du tout.
Gérard Gachet.
Je ne sais pas si ce risque existe. Moi, on ne peut pas totalement l'exclure quand même. Mais en revanche, je crois que l'attitude américaine est intéressante à ce sujet-là, parce qu'on dit beaucoup que si Trump se rapproche de la Russie et de Poutine, c'est aussi pour éloigner Poutine d'un rapprochement avec la Chine, qui semblait être un peu en cours. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour favoriser la Chine dans cette région-là. Et je pense qu'une tentative d'intervention militaire de la Chine sur Taïwan se heurterait, à mon avis, réellement aux États-Unis, parce que ça, ou alors Trump est totalement illogique et contradictoire, ce qu'on ne peut pas totalement exclure par moment. Mais je crois que si son but est vraiment que la Chine reste dans son coin, si j'ose dire, et n'interfère pas trop sur le reste du monde. Elle interfère déjà beaucoup sur le plan économique. Mais si son but est cela, il ne peut pas, je pense que Trump ne peut pas tolérer une agression militaire de la Chine sur Taïwan.
Mmh. Oui, mais
Jean-Clément.
Bah, moi, encore une fois, je crois pas du tout que ce soit l'intention des Chinois. Ils sont pas, ils ont pour aucune envie d'avoir un conflit armé. Je crois qu'ils veulent récupérer Taïwan, ils y mettront le temps. La notion du temps
est très importante. Hein.
La notion du temps est très importante et très différente entre la Chine et l'Occident. Mais ils vont pas faire cette bêtise parce que actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ce que fait Trump un peu partout dans le monde sert les intérêts chinois. Il leur apporte le reste du monde sur un plateau. Le sud global, comme on dit, bien que je ne sache pas très bien ce que ça signifie. Enfin, les autres pays du monde voient que les États-Unis ont une politique extrêmement agressive, parfois incohérente. Bon, bah, ça sert évidemment à la Chine. La Chine peut apparaître comme un stabilisateur à l'échelon international, ce que n'est plus les États-Unis. En plus, les Chinois cherchent à se rapprocher des Européens, évidemment. Et les Européens peuvent avoir un intérêt tactique, en tout cas, à se rapprocher des Chinois. Pour pas, puisqu'ils sont lâchés par les Américains. Enfin, je fais court, excusez-moi,
c'est raccourci, mais on voit bien les équilibres.
On voit les équilibres. Et donc les Chinois n'ont pas du tout intérêt à donner un visage d'eux qui serait inquiétant. Les Américains occupent l'espace de l'inquiétude. Donc je vois pourquoi ils en rajouteraient. Ils n'ont qu'à attendre. Mais de temps en temps, ils envoient des petits signaux et il y en aura d'autres. Il y aura des manœuvres, il y aura des tas de trucs. Mais à mon avis, ça s'arrêtera là. Et puis.
Comment expliquez-vous cette différence ?
Jean-Pierre Raffarin me disait l'autre jour une chose intéressante que j'ai rencontrée il y a quelques temps. Il me disait, à propos de la Chine, puisqu'il connaît le sujet aussi très bien, il me disait que les Chinois lui avaient dit, si jamais les Américains interviennent militairement contre nous dans la zone de Taïwan, on les a prévenus, on enverra des missiles sur les villes américaines. Bon, donc, ils sont prêts à toutes les éventualités, et ils cherchent aussi à faire des dissuasions. Voilà, donc ça c'est un moyen, pour l'instant très limité, hein, faire une déclaration, ça n'engage à rien, de dissuasion. Mais eux, leur intérêt aussi d'attendre.
Alors justement, sur cette différence de mentalité entre un Occident, du moins une Amérique qui paraît agitée, qui paraît bouillonnante, contradictoire, ainsi que vous l'avez dit, et une Chine qui attend son heure et que la chose tombe comme un fruit mûr, cette mentalité qui donne un rapport au temps extrêmement différent, comment l'expliquez-vous, en fait, puisqu'on vit quand même dans le même monde par les relations internationales et commerciales, et pourtant, on appréhende la réalité de manière vraiment différente. Comment l'expliquez-vous, Jérôme Clément ?
La nature du pouvoir chinois n'a rien à voir avec celle des États-Unis. C'est pas une démocratie. Xi Jinping a le temps devant lui. Il a prolongé son mandat, il risque d'être prolongé encore. Bien sûr, il y a des agitations et des discussions au sein du comité central du Parti communiste chinois. Je sais qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la ligne assez agressive qu'a adoptée anti-occidentale qu'a adoptée Xi Jinping, mais ils n'ont pas du tout le même rapport au temps dans l'organisation du pouvoir. Ça ne se passe pas du tout de la même façon. Alors qu'aux États-Unis, avec ces élections permanentes, tous les 4 ans, tous les 2 ans, pour les chambres, on n'est pas là du tout dans la même temporalité. Quoi.
Mais ça dit la force ou la faiblesse de la démocratie ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est à la fois une force sur le plan justement de l'expression des citoyens, donc de la démocratie au sens étymologique du terme. On se réunissait sous les Grecs sur le forum, et là on discutait de ce qui allait se passer, ou à Rome plutôt. Et aujourd'hui, on vote tout le temps, ce qui est bien pour l'expression des citoyens, mais c'est une faiblesse sur le plan de la capacité à développer une stratégie de long terme. C'est évident, quoi. On est quand même... tout le temps, le pouvoir est tout le temps remis en cause, tout le temps contesté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la démocratie a perdu du terrain dans beaucoup de pays, parce que le système de gestion du pouvoir semble affaiblir ceux qui le détiennent et donc nuise parfois au pays dans lequel il est. Ça, c'est un fait. On peut pas le. On est obligé de le constater, et surtout dans un monde dans le... qui évolue aussi vite, sur le plan technologique en particulier.
Gérard Gachet.
Oui, ce qui est un petit peu inquiétant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que si vraiment le pouvoir appartient aux gens qui l'ont pour un temps long et qui peuvent s'imposer par rapport à des démocraties qui sont dont les processus de décision sont hachés par des échéances électorales fréquentes, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que Xi Jinping en Chine et Vladimir Poutine en Russie, puisque lui aussi, le temps long, il connaît, il a mis en œuvre. Donc, ces deux-là auraient l'avantage par rapport aux démocraties européennes, notamment, pour faire valoir leur point de vue. Et voilà, je dirais pas régner sur le monde, mais avancer leur pion.
En tout cas, ça nous oblige méthodique à considérer cette donnée, ouais, ce rapport au temps qui est quand même... très, très intéressant de constater qu'il peut varier et qu'il offre des perspectives différentes selon le pouvoir et qu'il exerce la civilisation aussi, les écarts entre les civilisations. Merci beaucoup à Jérôme Clément et à Gérard Gachet d'être venus dans ce débat. Et je rappelle que vous êtes cofondateur d'Arte, ancien président du CNC, Jérôme Clément, auteur de Mao et Xi Jinping, carnet d'un voyageur engagé. Gérard Gachet a publié sur le général Jean-Louis Georgelin, le général de Notre-Dame. Merci beaucoup.
Aux éditions Ballant.
Merci beaucoup à tous les deux. Et bonjour Melchior Gormand.
Bonjour Louis, bonjour à chacun d'entre vous. Dans un instant, c'est Je pense donc j'agis avec Pauline de Torsiac. On va parler de l'intelligence artificielle et des chrétiens. Quelle voie pour les chrétiens face à cette révolution technologique ? On ouvre le sujet dans un instant avec nos invités et bien sûr avec vos appels et vos réactions au 04 72 38 20 23. Tout de suite.